Si je t'appelle aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques semaines, on avait commencé à nous intéresser sur Fréquencier, enfin dans Quartier Libre, à ces élections municipales et puis à toutes ces associations, à ces collectifs qui se créent. Alors on peut penser à des gens comme Alternatiba, des collectifs autour de l'écologie, etc. Donc ça, c'est des choses que l'on voit naître ici et là, un peu partout en France, dans les villes. Et puis il y a des choses un petit peu moins connues, qui sont ces collectifs citoyens à l'occasion des élections municipales, donc les prochaines élections. Et il y en a un petit peu partout en France. On avait commencé il y a une quinzaine de jours avec un collectif dans l'Aisne à Saint-Gobain. Et puis là, on a choisi d'aller sur une grande ville comme Toulouse. Alors Toulouse, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu cette ville d'abord? Parce que vu d'ici, Toulouse, c'est la ville rose de Nougaro. Mais mis à part ça, c'est pas quelque chose. C'est pas une ville que l'on connaît beaucoup par chez nous.
Alors Toulouse, c'est donc cinquième ou sixième ville de France, j'ai plus trop la place, mais c'est 470 000 habitants,
Oui.
Une ville assez dynamique. Si je prends la métropole, on va en parler après, qui elle fait 750 000 habitants, 37 communes,
Ah oui.
on a 15 000 habitants par an en plus, donc très dynamique, principalement tiré par l'aéronautique et la santé du gros pourvoyeur d'emploi de la région qui est Airbus,
Ouais.
qui draine dans son sillage tout un tissu de sous-traitants, de fournisseurs. Donc une ville qui a toujours bien fonctionné grâce à cette industrie qui marche depuis 40-50 ans assez bien. Une ville assez étudiante aussi, assez jeune, mais on l'appelle aussi un petit peu la belle endormie par moment, parce que c'est une ville quand même assez...
Ah ouais.
On va dire pas extrêmement dynamique d'un point de vue des investissements, tout ce qui est transport ou choses comme ça, qui s'est laissé un petit peu endormir sur ces grands, on va dire, investissements d'infrastructure.
Alors c'est
Une
une
ville où
ville.
il fait bon vivre.
Oui. Ben, c'est un petit peu l'image qu'on en a, donc la place du Capitole, enfin c'est comme ça qu'on l'appelle cette place-là à Toulouse. Et puis l'université Toulouse Le Mirail, on en a entendu parler au moment des manifestations étudiantes du mois de mai-juin cette année. Et puis forcément ben, cette aéronautique. Mais je ne pensais pas qu'il y avait autant de monde à Toulouse. C'est vrai qu'une agglomération de 700 000 habitants, ça commence à faire du monde, et 37 communes surtout.
C'est ça, tout à fait. Donc très disparate, avec des toutes petites communes, et puis la plus grosse commune, donc qui représente presque les 2/3 des habitants, Toulouse en plein milieu. Donc forte croissance, et donc l'idée, c'est de comment accompagner cette croissance de la population et garantir de bonnes conditions de vie à tout le monde, sachant qu'aujourd'hui, Toulouse est par exemple se retrouve complètement engorgée au niveau des tout ce qui est transport.
Ouais.
Routier, principalement la voiture, une rocade qui est embouteillée en permanence. Et donc ça pose des problèmes d'accompagner cette croissance de la manière la plus, on va dire, durable de possible. Et nous, c'est ce pourquoi on milite, la plus associative et participative possible également.
Oui, d'où l'idée de ce collectif ou association, l'Archipel Citoyen. Alors, ce que j'ai pu lire sur le site internet, moi je mettrai l'adresse du site internet sur le site internet de la radio, mais
Merci.
c'est une intervention, enfin c'est l'archipel citoyen n'a pas pour vocation seulement à intervenir sur la ville elle-même de Toulouse, mais sur toute la métropole, c'est-à-dire les 37 communes. C'est un petit peu un challenge que vous êtes lancé.
Alors c'est très ambitieux, on en est conscient. En même temps, il y a une forme de pragmatisme, c'est qu'aujourd'hui la métropole gère une grande partie des grands leviers d'investissement et d'orientation et de qualité de vie de Toulouse, puisque la Toulouse a délégué à la métropole la gestion des déchets, la gestion
Ouais.
de l'eau, la gestion des transports. Donc aujourd'hui, ce qui fait la qualité de vie des citoyens, ce qui fait que les gens apprécient de vivre à Toulouse, c'est géré par la métropole. Donc il fallait quand même clairement placer le curseur en disant on veut influer au maximum sur cette métropole, et on aimerait faire tache d'huile dans les 37 communes, et est-ce que dans chacune des 37 communes on ait des collectifs citoyens qui se montent et qui décident de se présenter aux élections municipales.
Alors
Voilà, donc
justement, pourquoi avoir créé ce collectif, et l'objectif de ce collectif, c'est de remporter des élections?
Alors clairement, on espère un raz-de-marée citoyen, on veut se positionner dans le jeu électoral, parce que ça nous semble être le moyen d'influer sur les politiques publiques. En fait, c'est né d'une convergence de frustration et de ras-le-bol de pas mal personnes dans la région. Vous parliez d'Alternatiba, typiquement on a des gens de ce type de mouvement qui font énormément de choses pour mobiliser les citoyens sur des petits actes, des petits pas, un peu la stratégie Colibri, de faire en sorte qu'on soit tout un chacun et chacune mobilisé sur changer la ville telle qu'on la veut vers un avenir plus durable, plus écologique, plus social, avec plus de partage. Mais on se heurte aussi à la réalité, et quand on voit que le budget de la métropole c'est 1,4 milliard, on voit que les vrais leviers, ils sont là.
Ils sont au niveau de la métropole, pas au niveau d'une commune alors.
Pas des communes, mais les citoyens aussi, avec les petits actes que l'on peut faire, se mobiliser.
Alors justement,
en vélo, on n'a pas le poids qu'a aujourd'hui la puissance publique de ces municipalités, ces métropoles.
Oui, alors justement, la question qui me vient, parce qu'on voit aussi chez nous les communautés de communes qui ont de plus en plus de pouvoir par rapport aux communes. On voit qu'il se passe un petit peu la même chose dans les villes avec ces métropoles, avec ces communautés urbaines qui regroupent, je prends Le Mans par exemple, plusieurs communes, mais c'est aussi valable pour d'autres villes comme Toulouse. Est-ce que le moyen de, comment dire, le lieu de vie, est-ce que c'est la métropole ou est-ce que c'est encore la commune? Quel est le lieu de vie, le niveau le plus adapté aujourd'hui?
Alors c'est la difficulté, c'est que le lieu de vie même, c'est le quartier, c'est la rue, c'est le lieu, ce que ressentent les citoyens, c'est ce qu'ils voient au quotidien, c'est entre guillemets l'échelon le plus local, le plus petit, donc c'est voilà la rue, le quartier, c'est là ce qui fait vraiment sens pour les citoyens, et en même temps il faut réussir à faire le lien avec celui qui a le pouvoir, celui qui décide, celui qui impacte réellement la vie dans notre rue, et là on est obligé d'aller voir la métropole. Donc c'est cette difficulté du lien de quand on fait de la démocratie participative, ce que nous on appelle la démocratie permanente, c'est-à-dire l'investissement continu des citoyens et des citoyennes dans la vie publique. Il faut réussir à connecter tous ces besoins locaux, personnels, ces petites difficultés du quotidien, réussir à montrer qu'il faut réussir à monter ça jusqu'au plus haut.
Mais toujours en partant toujours en partant du quartier, de la rue en fait, c'est ça un petit peu l'idée.
Il faut partir de là. Mmh. Il faut partir de là parce que c'est là que ça démarre, c'est là que les gens sont intéressés, et pour convaincre les gens de la démocratie participative, il faut leur montrer que s'ils s'investissent dans les problématiques qu'ils voient autour d'eux, ça va influer sur quelque chose. Mmh. On n'est pas là uniquement pour collecter des cahiers de doléances ou des choses comme ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment redonner le pouvoir aux citoyens.
Alors tu parlais de démocratie participative, mais tu as aussi employé le mot de démocratie permanente. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu entends, toi, par démocratie permanente, participative, comment les choses sont envisagées du côté de Toulouse autour de ces idées?
Tout à fait. Alors participative, on aime de moins en moins l'utiliser parce qu'il a été vraiment galvaudé. C'est-à-dire que les politiques, depuis une dizaine d'années, se sont aperçus que c'était bien de demander leur avis aux citoyens pour immédiatement s'asseoir dessus. Et quand on voit les textes législatifs tels qu'ils sont rédigés aujourd'hui, il y a la possibilité d'avoir des référendums, d'initiatives populaires, des choses comme ça. Mais tout ce qui remonte des citoyens est laissé à la libre appréciation complète des politiques. On prend par exemple Grenoble qui a essayé d'être très novateur et qui a dit s'il y a une pétition qui naît sur notre territoire et qui recueille, je crois que c'est 26 000 personnes, qui est le seuil avec lesquels ils ont été élus au conseil municipal, ils ont dit ça veut dire que cette pétition est aussi légitime que le conseil municipal, donc on fera passer la délibération que poussent les citoyens. Et ils ont été retoqués par la préfecture. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on veut bien prendre l'avis du citoyen, mais on veut surtout pas lui donner vraiment le pouvoir. J'aime bien ce que dit le maire de Los Angoël, qui est une commune du nord de la France, il dit participation sans décision égale piège à con. Et nous, c'est là-dessus qu'on lutte. Et donc la démocratie participative aujourd'hui, c'est plus la bonne manière de parler, parce que c'est participatif, mais c'est pas collaboratif, c'est pas coopératif, c'est pas partagé.
C'est pas décisionnel non plus.
Voilà, c'est pas additionnel, donc on utilise plutôt ce mot de démocratie coopérative, collaborative. Et derrière, on a rajouté aussi le mot démocratie permanente, parce qu'aujourd'hui, la démocratie, c'est le système représentatif, on s'exprime une fois tous les 6 ans, et une fois qu'on a installé un maire, il fait absolument ce qu'il veut. Mmh. Le système français est hyper autocratique. Une fois qu'un maire a pris une commune, pendant 6 ans, il est redevable devant personne. C'est-à-dire que le conseil municipal généralement lui est acquis.
Sauf s'il le souhaite.
Voilà, c'est ça. Le conseil général, le conseil municipal lui est acquis. Il n'y a pas de contre-pouvoir. On n'a même pas. On critique beaucoup le rôle de l'Assemblée qui sert presque plus à rien en France, mais l'Assemblée nationale. Mais on voit que ce type de contre-pouvoir n'existe même pas au niveau d'une commune.
Et donc
on a affaire à des petits chefs entre guillemets qui aujourd'hui qui se comportent véritablement comme des des monarques.
Et donc,
le parler de royauté, c'est ça. Hein.
Donc, le mot démocratie permanente, ça veut dire que c'est sans cesse un mouvement de va-et-vient entre les citoyens et les représentants ou les élus. C'est un petit peu ça l'idée, que les choses s'adaptent au fur et à mesure en fonction des demandes des gens. C'est un petit peu l'idée.
Exactement. Donc là-dessus, c'est comment réaliser ce va-et-vient. Ça demande en fait tout un arsenal un tas de dispositifs sur lesquels aujourd'hui on réfléchit et qu'on voudrait être le cœur de notre programme en 2020. C'est-à-dire dire aux citoyennes et aux citoyens, l'idée c'est pas de vous donner des promesses qui sont pas en l'air et qui de toute façon sont pas forcément tenables. Parce que quand on voit les maires qui ont été élus en 2014, ce qui s'est passé, c'est qu'un an après, ils ont pris la réforme de l'État, ils ont pris 20-30% de réduction de budget, donc tout leur programme s'est écroulé. Ce qu'on veut leur dire, c'est ce qu'il faut, c'est construire la possibilité de s'adapter en permanence en incluant les citoyens dans le processus. Mmh. Donc on veut faire des conventions de citoyens ou conférences de consensus, on veut avoir des budgets participatifs, mais dans des volants qui sont bien plus importants que le saupoudrage que certains tentent de faire à droite à gauche, ou que certains élus à Toulouse tentent de récupérer aussi en le mettant en avant. On veut faire également de la formation, parce qu'aujourd'hui, pour prendre une décision éclairée, il faut dédier du temps, il faut pouvoir informer correctement les citoyennes et les citoyens des enjeux. Donc cette question de la formation civique et publique, elle est importante.
Et je vais te couper là, puisque c'est justement, on va en parler, on va essayer de détailler tous ces points avec quelques outils, quelques éléments d'information, comment ça fonctionne tout simplement. Mais je propose de faire une première pause musicale. On va retrouver Nougaro avec son morceau dédié à la Ville Rose, Toulouse, sur Fréquencier.
Qu'il est loin mon pays, qu'il est loin. Parfois au fond de moi se ranime l'eau verte du canal du Midi et la brique rouge des Pays, ô Toulouse, je reprends l'avenue vers l'école, mon cartable est bourré de coups de poing. Castagne, ô mon pays, ô Toulouse, un torrent de cailloux roule dans ton accent. Ta violence bouillonne jusque dans tes violettes. On se traite de con à peine qu'on se traite. L'église Saint-Sernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge et noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose. Je revois ton pavé ou ma cité gasconne, ton trottoir éventré sur les tuyaux du gaz. Est-ce l'Espagne en toi qui pousse un peu sa corne? Ou serait-ce dans tes tripes une bulle de jazz? Voici le Capitole, j'y arrête mes pas. Les ténors enrhumés tremblaient sous leur ventouse. J'entends encore l'écho de la voix de papa. seul chanteur de blues. Aujourd'hui tes buildings grimpent haut. À Blagnac tes avions sont plus beaux. Si l'un me ramène sur cette ville, pourrais-je encore y revoir ma pincée de tuile? Au Montpaïs, au Toulouse,
Toulouse, Claude Nougaro sur Fréquencier dans Quartier Libre. On retrouve justement depuis Toulouse Maxime Le Texier du collectif Association Archipel Citoyen à Toulouse. Donc, et la question que je me pose, c'est comment ce collectif, un collectif peut naître ? Est-ce que c'est trois ou quatre personnes qui un jour se sont rencontrées dans un café, ont discuté ensemble et puis se sont dit ce serait bien de faire ça ? Ou est-ce que c'est aussi simple que ça ? Ou est-ce que c'est un petit peu plus compliqué la mise en place de ces collectifs ?
Alors, le démarrage, c'est toujours un coin de table, hein, ça, un bar, un comptoir, une table entre amis, ça démarre souvent comme ça. Et en fait, c'est né comme ça, de la rencontre de différents univers, en fait, et de différentes frustrations. Donc, c'était des élus de communes de la métropole qui se faisaient, entre guillemets, marcher dessus par la grosse ville de Toulouse et qui considéraient que leur commune n'était absolument pas prise en compte dans le jeu, puisque aujourd'hui une petite commune va avoir un ou deux représentants sur les 130 membres du conseil métropolitain.
Et oui.
Et aujourd'hui le maire de la métropole, le maire de Toulouse étant également le président de la métropole, il a tendance effectivement à ultra favoriser sa ville au détriment des autres communes.
Alors
c'est aussi certains chantages, donc. C'était des élus communaux.
Ouais. Alors après, c'est assez rigolo d'ailleurs, parce que moi j'aurais pensé on peut penser que ce serait plutôt des citoyens lambda qui n'ont pas de fonction élective. Et puis là, on apprend qu'il y a des élus qui sont intéressés par ce genre de collectif. Donc c'est assez curieux, c'est assez curieux dans le sens où c'est assez intéressant de se rendre compte que c'est pas seulement quelque chose qui motive les citoyens, mais qui peut aussi motiver des élus, comme tu l'expliques là ou en ce moment là.
Tout à fait. En fait, c'est symptomatique du système français qui est complètement déséquilibré. Je parlais d'autocratie, c'est vraiment le cas. Et en fait, pour avoir un maire de commune qui se retrouve complètement écrasé et qui décide de s'investir dans un mouvement citoyen, il y a effectivement, moi je trouve ça vraiment intéressant, c'est très révélateur du fait qu'il y a une frustration énorme d'un système qui fonctionne à sens unique, complètement descendant. Et alors justement, intéressant aussi, c'est que des gens qui se retrouvaient autour de cette table, il y avait également des élus de la ville de Toulouse, mais qui étaient dans l'opposition.
Ah oui.
Qui nous ont bien dit, aujourd'hui, l'opposition ne sert strictement à rien. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est élu municipal, on a beau multiplier les démarches, travailler les dossiers, on est face à une majorité aujourd'hui assez monolithique et pendant 6 ans, ils comptent les points, ils prennent des coups et ils servent pas à grand-chose. Donc il y avait ce côté désespérant de la monarchie municipale qu'est le système français, un petit peu. Hein. J'utilise des mots forts, mais
oui.
C'est vécu comme ça. C'est vécu comme quelque chose de très, très, très descendant et impossible à contrebalancer. Il y avait des gens autour de la table, je parlais d'Alternativa, etc., donc qui venaient du tissu associatif et qui disaient aujourd'hui comment on fait pour peser dans le débat public, parce qu'en tant qu'association, on passe du temps sur le terrain, on défend via le droit au logement, via d'autres associations, on défend les gens, mais on a un rouleau compresseur public au-dessus de nous qui, notre voix, n'est pas prise en compte. Donc, est-ce qu'il ne faut pas réinvestir le champ politique ? On avait des gens de partis politiques qui, à l'intérieur même des partis politiques, en fait, ils ont vécu cette culture verticale et autoritaire également à l'intérieur des partis, puisqu'en fait, globalement, en fait, ce mouvement, moi, ce que j'apprécie dans ces mouvements participatifs, bon, j'utilise ce mot-là, mais bon, en tout cas, on va dire coopératif ou collaboratif, c'est que ça questionne tout ce mode de fonctionnement vertical qui est celui de l'État, celui d'un parti, celui d'une entreprise. Globalement, c'est
les citoyens en ont marre d'avoir et celui d'une métropole,
des métropoles qui est, exactement, tout à fait, qui est encore plus opaque et moins encadré d'ailleurs que les communes. C'est assez intéressant à noter. Et donc tous ces gens-là se sont dit bon ben en fait on subit des autocraties un peu dans tous les domaines de la vie, et c'est pas normal que les citoyennes et les citoyens comme ça n'aient pas leur mot à dire. Donc c'est toutes ces énergies qui se sont dit, bon bah qu'est-ce qu'on peut faire, et qui se sont dit, bah, si on fait un énième association de sensibilisation aux pratiques publiques, ou quelque chose comme l'association Anticorps, des choses comme ça, c'est intéressant, mais le vrai moyen de perturber le jeu aujourd'hui, c'est d'aller sur le champ politique. Donc on va monter une liste participative, on va monter une liste, on va dire municipaliste,
ouais.
Où on va permettre aux citoyennes et citoyennes lambda de venir se présenter aux élections. Il n'y a que comme ça, en allant jusqu'au bout de la démarche, et en allant dans le jeu politique, qu'on va réussir à se faire entendre.
Et justement, est-ce que vous êtes allé, après ce constat, aller sur le terrain, sur les marchés, je ne sais pas, sur les places publiques, dans les lieux de on rencontre des gens pour aller frapper pas à leur porte, mais je veux dire, tout simplement, bah, leur discuter avec eux, leur expliquer ce que vous faites, essayer de leur dire, venez participer, vous pouvez apporter quelque chose. Est-ce que c'était un petit peu ça l'idée de départ dans le mode
c'est
de fonctionnement?
Oui, c'est ça, c'est d'aller essayer de rencontrer les gens. Quels sont vos problèmes? Qu'est-ce que vous voulez remonter? Et comment nous, on peut vous aider? Donc, on fait ce qu'on appelle des tapes de rue, des maraudes aussi, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on marche dans les rues et on rencontre les gens, on leur dit qu'est-ce que vous pensez de la politique? Qu'est-ce qui est injuste dans votre ville? Et on crée comme ça un premier lien, et puis on discute, et puis ça nous permet de nous nourrir des préoccupations des citoyens, on l'a dit. Et qu'est-ce que vous voudriez faire? Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire aussi comme investissement dans la vie publique? Et on questionne le rapport aux associations, le rapport aux politiques.
Et le citoyen lambda, comment est-ce qu'il reçoit cette information? Est-ce qu'il se dit, ouais, encore un truc, on va encore se faire avoir, ou on va pas nous écouter, ou est-ce que ça attire l'oreille?
Il y a beaucoup de sympathie pour le mouvement, parce que en fait on est en format très ouvert, on fait aussi des conférences publiques où on fonctionne de manière complètement différente, c'est-à-dire qu'on fait sur les modes de l'éducation populaire, ou on fait des ateliers où tout le monde s'exprime, on prend les décisions. Sur des formats complètement nouveaux, inspirés de la sociocratie, etc.,
ouais.
Où chacun compte. Donc on pratique vraiment la démocratie dans sa définition, qui est l'égalité des intelligences. C'est ça la définition à la base de la démocratie, qui a été galvaudée en démocratie représentative avec les années. Mais en fait, ils découvrent une nouvelle façon de faire. Et nous, c'est ce qu'on veut, c'est montrer qu'on est aussi un laboratoire d'idées, un laboratoire de pratiques, et que la démocratie collaborative, coopérative, permanente, on la pratique nous-mêmes. Et donc les gens sont assez interloqués, parce que quand ils viennent à nos réunions publiques, ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer, ils peuvent décider, et ça, ils n'en ont pas l'habitude. Donc il y a vraiment, les gens accrochent beaucoup avec ce mode de faire.
Ouais.
Par contre, aujourd'hui, la difficulté, c'est que ce qu'on demande, hein, parce que c'est ça la démocratie aussi coopérative, c'est que on n'est plus spectateur, on devient acteur, actrice du changement. Mais
justement, comment les gens peuvent s'emparer de ça? Parce que là, j'entends un petit peu dire, on vous présente, enfin, c'est des gens qui présentent à d'autres, mais c'est comment les gens s'emparent effectivement de leur rue, de leur quotidien, de leur, bah, de leurs projets, de leurs envies. Est-ce que la place leur est donnée? Est-ce que par exemple la liste est en cours de constitution? Qui peut aller dedans? Comment ça se crée? Voilà, c'est un petit peu ça. Quels sont les comment est-ce qu'il y a un programme pour les municipales, et comment il est créé, par qui?
Alors voilà, c'est une très bonne question. En fait, donc on fonctionne en cercle, comme on les appelle. Donc des cercles thématiques, un cercle par exemple urbanisme, mobilité, un cercle inclusion, un cercle démocratie, gouvernance, qui lui s'occupe vraiment des processus démocratiques. On a un cercle écologie, bien commun. Et donc en fait dans ces cercles, n'importe qui, cercle économie, donc dans ce cercle, n'importe qui peut venir et venir porter ses idées, discuter, confronter et construire, co-construire le programme avec les présentes. Et les présents. Donc on fonctionne comme ça, avec des cercles thématiques. Et après, la bonne question, qui est celle de la comment se constitue la liste, justement, on va faire quelque chose d'extrêmement novateur. Ça n'a pas été fait en France à l'échelle d'une commune. On va faire un système d'élaboration de listes municipales ouvertes à tous les citoyens et toutes les citoyennes. Donc n'importe qui pourra être candidat sur la liste, à condition de défendre un certain nombre de valeurs humanistes et solidaires qu'on a mis dans une charte de valeurs, un code éthique qui va être qui pour nous va cadrer le rôle de l'élu avec limitation du nombre de mandats dans le temps, du non-cumul, plein de principes éthiques et de contraintes sur l'exercice du pouvoir. Et également, et donc là on y réfléchit, à un certain contenu programmatique. Alors c'est sûr un programme démocratique qui va être important et un programme thématique, on va dire, sur l'eau, sur le bien commun, la mobilité, sur lesquels on réfléchit encore à quel contenu lui donner. Oh, ouais. Et si n'importe qui pourra être candidat à cette liste, et puis après on aura des systèmes de débat public, d'exposition des citoyens lambda qui se seront présentés à des commissions publiques où ils viendront d'expliquer pourquoi ce sont les plus à même de défendre le projet. Donc on veut vraiment bousculer aussi les manières de constituer liste, parce que pour nous, il faut être cohérent de A à Z. Si on prône la démocratie collaborative, à terme, il faut qu'on l'applique au sein du mouvement et également dans la constitution de la liste.
Oui.
Je rajouterais aussi qu'on a mis même du tirage au sort, c'est-à-dire qu'on veut absolument réserver sur la liste une partie des sièges de la liste directement au tirage au sort, de manière à recréer, éviter les tractations, enfin tout ce à quoi nous ont habitués les partis classiques.
Donc,
c'est une manière de bousculer les choses.
Donc on voit que tout cela ne se décide pas autour d'une table entre 3 ou 4 personnes ou au sein d'un parti politique. Là, l'idée, c'est vraiment de faire participer les gens, et ça demande du temps, j'imagine. Et la question que je me pose quand même, c'est que je n'ai pas posée au début, que j'aurais dû, c'est quand est-ce que ça s'est mis en place, ce projet pour Toulouse?
Alors, il y a un peu plus d'un an. En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que les partis généralement s'occupent des élections au dernier moment. Oui. On fait un petit tour de table, on se débrouille à 4-5 pour se répartir les sièges, et puis c'est parti. On fait un petit programme aussi à quelques-uns, et puis et on se débrouille. Et nous, on s'est dit, c'est exactement ce que vous disiez, c'est que ça demande énormément de temps, parce qu'en fait toutes nos réunions sont publiques, donc on réexplique en permanence, on met beaucoup de choses sur le site internet, les gens ont accès à plein de documents. Et toute cette transparence, cette volonté d'inclusion, elle est très consommatrice de temps. Donc on s'était dit, si on veut pouvoir travailler sereinement à un programme et à des processus pour 2020, il faut qu'on puisse démarrer dès 2017-2018. Et c'est pour ça qu'on a commencé très en avant. Donc c'est un marathon, on s'est lancé vraiment dans un marathon, mais ce marathon, c'est le gage de notre cohérence.
Ouais. Donc le collectif intervient donc sur Toulouse, la ville elle-même, mais peut-être aussi sur les communes de la métropole.
C'est ce qu'on essaie de faire, on essaie de faire des petits, entre guillemets, on essaie de convaincre. Donc il y a plein de gens qui sont intéressés, mais qui cherchent encore des énergies à droite à gauche.
Oui, parce qu'à chaque fois, dans chaque commune, il faut lancer une réflexion au niveau d'une commune, de la métropole.
Oui,
ça veut dire refaire ce genre de travail, mais au niveau des communes de la métropole, pour essayer de relancer des gens sur une liste de ce type-là, une liste citoyenne. Donc, c'est vrai que lorsqu'on réfléchit au niveau d'une métropole, au niveau d'une communauté urbaine comme Toulouse et ses 37 communes, l'échelle est complètement différente là au niveau du travail pour le coup.
Tout à fait, parce qu'aujourd'hui le conseil métropolitain, le système fonctionne par fléchage, c'est-à-dire qu'en fait on a des élus des 37 communes qui se retrouvent au conseil métropolitain.
Oui.
Donc pour avoir un poids au niveau de la métropole, il faut
avoir une majorité, enfin des élus de...
Voilà, exactement, il faut avoir des gens qui viennent d'un peu partout. Alors il faut avouer qu'aujourd'hui, vu les ressources qu'on a dans le groupe, on se focalise beaucoup sur Toulouse, puisque comme Toulouse, c'est quand même plus de la moitié des représentants du conseil métropolitain, remporter Toulouse, c'est une manière déjà de prendre une grosse option sur le fonctionnement de la métropole. Donc c'est quand même notre cœur de cible actuellement, c'est la ville de Toulouse qui permettra de vraiment d'influencer la métropole.
Alors une dernière question avant de faire une deuxième pause musicale. Alors le collectif, c'est une association, c'est comment ça s'organise juridiquement un collectif de ce type-là?
Alors nous, on a pris un statut juridique d'association loi de 1901, mais uniquement pour des contraintes administratives, pour pouvoir réserver des salles, avoir un chéquier, à gérer les dépenses. Mais en fait, on a un président, trésorier, secrétaire qui sont entre guillemets mis sur le papier, mais qui sont absolument pas le mode de fonctionnement, puisque on prône la décision collective, les modes de partage. Donc on a un cercle de coordination en fait qui est composé d'une douzaine de personnes qui fluctuent un peu dans le nombre et dans lequel les décisions sont prises tous ensemble, soit par consensus, soit par consentement, qui est une méthodologie pour que tout le monde soit inclus dans la décision. Mmh. Donc là encore, on essaie de prôner au quotidien ce que l'on veut défendre après. Donc il n'y a pas de leader ou quoi que ce soit. Même par exemple les porte-parole, je suis aujourd'hui avec vous en tant que porte-parole, on est 4, 2 femmes, 2 hommes. On essaye au maximum de répartir l'influence, répartir le pouvoir, parce que l'idée c'est ça, c'est pour casser le pouvoir, il faut le fragmenter.
Il faut le diviser, il faut le répartir. Je vous propose tout de suite une deuxième pause musicale, on va rester sur Toulouse avec un groupe toulousain cette fois-ci, encore une fois. Il s'agit des Fabulous Troubadours avec « Ta ville sera le plus beau parc » sur Fréquence.
Visiter Disneyland, Disney World et le Schtroumpfland, plusieurs Futuropolis, le village d'Astérix. J'aime bien tous ces endroits où il y a du peuple et de la joie. Mais enfin, je le remarque et je le dis sans prétention. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc,
sa vie pleine d'attractions.
Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision.
Des manèges, il n'y a que ça dans les rues autour de toi. Où le train, l'escalator, du métro, les mégastores. Du spectacle, il y en a plein la vie de tes concitoyens. Il suffit d'un nouveau regard, d'une nouvelle attention. Et ta ville devient ce parc où mille et une attractions.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc
si telle est ton ambition.
Tous les jours faut l'embellir, c'est le plus fun des loisirs. Inventer et entreprendre, proposer, bâtir, défendre. Tous les jours faut que tu oses repeindre ta ville en rose. Ne laisse pas les énarques imposer leurs solutions. Avec tous rêves ce parc et passe aux réalisations.
Ma ville est le plus beau parc,
sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc, si telle est ton ambition.
Des aventures tu en vivras, en reality ramant. Si tu cherches à unir les gens contre le pouvoir de l'argent, les riches et les promoteurs te traiteront d'agitateur. Puis un jour les flics t'embarquent, tu chanteras en détention. Vous pourrez pas parquer mon parc ni zapper sa population.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc
si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc
si tu en prends la décision.
Tel Zorro ou tel Robin, mais un simple citoyen. Tel l'espiègle, tel Guillaume, tel Lampia ou tel Mapome. Tu te feras voyou d'honneur, des esprits de défenseurs. Avec comme flèche et comme arc, ta tchatche et tes convictions. Tu délivreras ton parc de toutes les oppressions.
Ma ville est le plus beau parc,
sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition.
Ton parc attend ses héros, élève-toi au top niveau. Empare-toi de connaissances, langue, loi, histoire et science. Ne te laisse rebuter par aucune difficulté. Comme le dit plus tard Pétrarque, ou plutôt le dit Scipion. Aide-toi et les trois parcs à quatre pour toi c'est les trois.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc
si telle est ton ambition.
Une conscience planétaire se nourrit aussi d'ordinaire. Mieux comprendre les lointains, c'est d'abord creuser son terrain. Méfie-toi des utopies, tu vois bien qu'il est mani. Ceux qui à la télé se targuent d'universelles solutions, mais qui dans leur propre parc ont moins d'idées que Tartampion.
Ma ville est le plus beau parc,
sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc
si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision.
Lorsque tu prendras la route pleine d'expérience et de doutes, tu verras mieux que partout, de la Grèce au Pérou, du Brésil à la Russie, de l'Écosse à l'Australie, de la Chine au Danemark et dans toutes les nations. Autant de villes, autant de parcs que chacun leur vocation.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc
si telle est ton ambition.
Chaque ville a ses carousels, ses relatifs universels. Tout un rôle différent dans l'épopée des nouveaux temps. Elles ont beaucoup à échanger tant qu'elles ont leur liberté. Le monde uni en un seul parc, il est séduit. Mais attention, rien ne s'oppose au monarque et à l'uniformisation.
Ma ville est le plus beau parc,
sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition.
La vie comme scénario et la ville pour studio. Ses habitants pour acteurs, chacun comme producteur. Tu viens ton ville le plus grand, il déborde tous les écrans. Le monde Hollywood et ses stars qui pour les exploits sont champions.
ne serai pas là, je les nargue en concevant la projection.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc,
si telle est ton ambition.
Tandis que Jack souterré dans son Éden alambiqué, ou cloîtré dans un palace, playware game de guerre là. Si tu as partout ta ludothèque, sans débourser un copec, dollar, franc, écu ou marque, même compté par millions, ne pourrais pas de ton parc acheter les attractions.
Ma ville est le plus beau parc,
sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc, si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc, si telle est ta décision.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc, si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc, si tu en prends la décision. Le paradis n'est pas l'ailleurs dont rêvent les voyageurs. Il n'est pas dans l'au-delà, ni dans aucun autre foi. Le paradis n'est pas demain, mais aujourd'hui entre tes mains. Il est là où tu mets la marque de ta propre élévation. Là où tu construis ton parc, là où tu mènes ton action.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc,
si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc,
si tu en prends la décision.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc,
si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc,
si tu en prends la décision.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc,
si telle est ton ambition.
Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc,
si tu en prends la décision.
Les fabuleux troubadours sont fréquenciers avec « Ma ville sera le plus beau parc ». On retrouve notre invité du jour, Maxime Le Texier, du collectif, collectif citoyen Archipel Citoyen de Toulouse, une association citoyenne en vue des élections municipales de 2022. Toujours là ?
Allô ? Oui, toujours là.
Oui. Alors, quand je vais sur le site internet, je regarde, on parlait tout à l'heure un petit peu de ça, mais j'ai regardé aussi entre-temps. J'ai regardé déjà le site depuis un petit moment, et je retrouve un terme qu'on utilise déjà par ailleurs, peut-être pas en France, mais qu'on a utilisé en Espagne beaucoup, c'est le mot de cercle, le terme de cercle. Cercle qui me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé en Espagne avec Podemos, ce qui se passait aussi du côté de Barcelone, avec ces municipalités comme Barcelone ou comme Madrid, basées sur ces idées de citoyenneté, de participation citoyenne. Est-ce que les cercles, c'est un petit clin d'œil justement à l'Espagne et à ce mode de réflexion qui a eu lieu là-bas lors des élections chez eux municipales ?
Alors, c'est une bonne remarque. Barcelone, pour nous, c'est clairement une inspiration parce que ça a montré à l'ensemble de l'Europe et même du monde entier que des citoyens mobilisés sur des causes, donc saignées principalement du tissu associatif. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à Barcelone, c'est pas Podemos qui a remporté la municipalité, oui, c'est un collectif, à la base un collectif associatif que Podemos a soutenu par la suite. Mais c'est vraiment né de l'équivalent du droit au logement chez nous, en fait.
C'est ça, oui. Et j'ai encore l'image du maire de cette époque, enfin de celle qui s'est présentée, où on la voit sur des vidéos déguisée en superwoman du logement. Et c'est vrai que c'était à la base un mouvement plutôt citoyen et pas forcément lié à un parti politique au départ.
Exactement, exactement. Et qui est parti vraiment des colères du quotidien, des scandales des expropriations, du scandale de la gentrification aussi de Barcelone, qui se retrouvait la proie des promoteurs et dont les prix du logement explosaient avec des Airbnb absolument partout. Les habitants n'avaient plus la main du tout sur leur ville. Donc c'est une réappropriation de la ville. Alors merci beaucoup pour les fabuleux troubadours parce que c'est exactement ça, c'est ta ville sera ce parc si c'est ton ambition ou ta décision. Et c'est ça, et c'est ce qu'ils ont fait à Barcelone. Donc voilà, le seul moyen de reprendre d'avoir la main et de savoir un peu quel sera notre avenir, celui de nos enfants, c'est de réinvestir la vie publique. Nous on veut pas en fait opposer, on n'est pas sur un vocabulaire, la politique c'est ça, la politique c'est la réalité, c'est la vie de la cité. Il faut justement au contraire la changer pour qu'elle soit soutenable, pour qu'elle soit vivable, pour qu'elle soit réellement collaborative. Et nous, on pense que c'est faisable. On le voit, on rencontre des élus qui sont des gens très bien, actuellement, par exemple, dans l'opposition, qui sont avec nous, et qui ont vraiment envie d'une préoccupation réelle de l'intérêt général. Mais les fonctionnements actuels des mairies font que la politique est complètement... détourné de l'intérêt général.
Et est-ce que c'est pas un petit peu utopique de penser que les gens vont réinvestir la politique, puisqu'on est quand même dans un monde individualiste, télévision, internet derrière les écrans, où chacun est un petit peu pour soi. Est-ce que c'est pas un petit peu utopique de dire, d'aller voir les gens, leur dire réinvestissez-vous dans la vie politique, réinvestissez-vous dans votre ville, dans votre quartier, prenez-vous en main. Est-ce que c'est pas aller à contre-courant de ce vers quoi on va, justement?
Alors justement, c'est intéressant parce qu'effectivement, la société est de plus en plus individualiste, de plus en plus fragmentée, on n'a plus la main, les gens considèrent que l'Europe prend des décisions sans prendre en compte les nations, donc il y a aussi l'extrême droite qui surfe sur ça énormément. Et l'idée, c'est en fait l'échelon local, c'est vraiment un échelon clé dans les changements que l'on veut, parce qu'on dit souvent, par exemple, que plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre, par exemple, qui est une grosse problématique actuelle, ils sont décidés à l'échelle des villes, puisque c'est là que se fait la politique de transport, oui. C'est là que se quotidien, c'est là que se fait l'alimentation, les décisions d'alimentation, sur les espaces verts, la pollution, la santé. Vraiment, l'échelon local, c'est celui qui est le plus accessible et c'est celui par lequel on peut vraiment changer le monde. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant puisque Barcelone a commencé à créer un réseau international des villes municipalistes, comme ils les appellent, les villes sans peur,
ouais.
Où ils disent, nous, on peut pas laisser les extrêmes proliférer sur la montée de l'individualisme, le consumérisme, ouais. Le capitalisme à outrance. Donc, on pense que des villes peuvent se soulever, peuvent se fédérer, et l'Espagne est quand même nous montre que c'est faisable avec parce qu'il y a Barcelone, mais
il y a plein d'autres villes,
la Corogne, il y a plein d'autres villes. Et en France, ça commence à vraiment à prendre de l'ampleur. On a des villes quand même qui tentent des choses. Il y a à petite échelle, mais vraiment de manière vraiment radicale, une démocratie coopérative secrète comme Kingersheim en Alsace. Je parlais de Los Angeles. Puis Grenoble, en fait, un Grenoble qui est quand même qui a des difficultés, mais qui innove vraiment sur ce champ démocratique.
Sur ce champ-là. Alors moi, je voulais savoir un petit peu, lorsque vous rencontrez les gens ou les élus, comment ils apprécient cette démarche. Est-ce que c'est quelque chose qui attire ou quelque chose qui, au contraire, repousse ce que vous proposez, votre démarche?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une sympathie pour nous en disant c'est bien ce que vous tentez, mais on a aussi... on va dire une réaction un petit peu de fatigue vis-à-vis de la politique en général, où les gens disent, bon, écoutez, vous êtes dans la politique, donc j'ai pas envie de vous écouter, vous êtes tous les mêmes, de toute façon, ce que vous voulez, c'est le pouvoir pour le garder. C'est clair qu'il y a une désillusion aujourd'hui, hein, très forte vis-à-vis du politique, qui va mener, malheureusement, on le voit, vers de plus en plus d'abstention, et nous, c'est ce qu'on essaye de changer aussi, puisque... L'abstention, les extrêmes, on pense réellement aussi que la démocratie collaborative, c'est une manière, une démocratie permanente, c'est une manière aussi de refaire vivre la cité. Ouais. C'est pareil, c'est la chanson des Fabuleux Troubadours, si on reprend les choses en main, on peut recréer du commun dans les quartiers, recréer du social, recréer de la solidarité, et nettement amener le monde vers des valeurs bien plus humanistes que si on laisse aujourd'hui la machine, la machine libérale continuer à écraser les gens de la manière dont ils le font.
Alors, l'autre question qu'on peut se poser, c'est que pour une ville comme Toulouse, j'imagine qu'en lors des municipales, il y aura en face de cette liste citoyenne, vous aurez des listes, entre guillemets, beaucoup plus politiques. Est-ce qu'il y a des réactions, justement, de partis politiques sur Toulouse par rapport à votre projet, ou est-ce qu'ils laissent un petit peu en disant « oui, c'est des farfelus et ils n'y arriveront pas ».
Aujourd'hui, ils nous regardent avec un mélange de effectivement un petit peu certains de dédain, d'autres de scepticisme, certains par contre d'intérêt réel. En fait, on a quand même... Il y a un aspect générationnel aussi là-dessus. On est face à des gens qui sont depuis 20 ou 30 ans dans la machine politique, qui sont rompus à ces méthodes relativement descendantes, et qui, tout ce qui est inclusion, transparence, par exemple le fait que nous, on demande que les réunions soient toutes publiques.
Oui.
À partir du moment où toutes nos réunions sont publiques, même celles du cercle de coordination, n'importe qui peut venir écouter. Et voir ce qui se passe. Ça, c'est des choses qui perturbent. Donc aujourd'hui, ils se demandent, et vous parliez des élus, c'est intéressant aussi quand on leur parle de démocratie participative où les élus disent, bah, écoutez, moi je suis légitime, j'ai été élu pour 6 ans, maintenant je fais ce que je veux. Mmh. Et de toute façon, les citoyens, ça les intéresse pas. Donc il y en a quand même beaucoup qui aujourd'hui balayent d'un revers de main, notamment dans la majorité, en disant, bon, écoutez, nous, on a un travail à faire, on a été élus pour ça, on ne voit pas pourquoi on s'embêterait à demander, puisque de toute façon, les citoyens, dès qu'on demande leur avis...
Ils nous ont délégué et maintenant on fait ce qu'on veut, c'est un petit peu l'idée de l'élu aujourd'hui, c'est ça ?
Oui, et puis même, il y a une question aussi de... certains pensent réellement que le citoyen n'est pas intéressé par la chose publique et que tous les efforts qui sont faits pour essayer de l'intégrer... ne valent pas la chandelle parce que le citoyen aujourd'hui est désintéressé, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue et nous on essaie de casser ce cercle vicieux en disant créer un cercle vertueux, en disant plus les citoyens s'investissent, plus les élus seront valorisés également, plus ils auront le sentiment d'être représentatifs et on pense qu'on peut vraiment changer ces manières de faire.
Alors j'avais une dernière question à te poser, est-ce qu'il y a un ouvrage, un guide, des brochures, juste un ou deux ouvrages que tu pourrais conseiller aux auditeurs qui voudraient en savoir un petit peu plus sur, sur ce que vous faites, mais aussi plus généralement sur ces questions de démocratie participative au niveau d'une ville ou d'une commune.
Oui, alors il y a un livre qu'on a découvert récemment, mais qui est très intéressant, c'est un peu l'entre-deux, entre le... plutôt que de conseiller des ouvrages universitaires sur la démocratie participative, des choses comme ça, il y a un livre de Christian Proust qui s'appelle « Guide pour oser s'impliquer dans la démocratie locale » et qui est à la fois, nous on l'aime bien parce que qui est à la fois pourquoi le faire, qui explique un peu les raisons générales, mais qui donne aussi des clés rapides pour essayer de se réinvestir en allant jusqu'à même venir vers nous, par exemple, vers une liste municipaliste. Mais au-delà de ça, comment réinvestir son quartier et faire de la ville le plus beau parc, comme il disait. Et après, moi, je conseillerais bien aussi un film qui s'appelle Démocratie, qui a été édité par le collectif DataGueule, un collectif qui fait de la vulgarisation au départ scientifique vers les citoyennes et citoyens, et qui a fait un crowdfunding pour créer un film qu'ils mettent gratuitement à disposition sur YouTube, qui est super, qui s'appelle donc Démocratie, qui questionne qu'est-ce que c'est que la démocratie. Donc il y a des philosophes qui s'expriment d'abord sur cette notion-là, et puis après on passe à plein de cas de figure. Ils parlent de Barcelone, ils parlent des écoles aussi publiques, où maintenant on fait de la démocratie collaborative dans les écoles, où les enfants se mettent en cercle dans la salle et discutent entre eux des règles de vie de l'école. Il y a des exemples de coopératives de travail aussi, où on fait de la décision collaborative au sein des entreprises. Il parle de la constitution en Islande. Ça, c'est un film super qui interroge plus globalement la question de la démocratie et de la place du citoyen dans la vie publique. Donc, on conseille fortement aussi cette vidéo.
Alors je mettrai tous ces liens sur la page internet de la radio. En tout cas, Maxime Le Texier, je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu répondre à mes questions sur ces aspects de citoyenneté, puisque c'est quand même un des enjeux aujourd'hui lorsque l'on voit les niveaux d'abstention. C'est vrai que ça interroge tout ça. En tout cas, moi je te remercie d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Donc Maxime Le Texier, Association Archipel Citoyen de Toulouse. Je te remercie, au revoir.
Merci beaucoup, bonne journée.